a déjà prié, mais on va dire une petite prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Demandons à l'Esprit Saint, le Père des pauvres, d'illuminer notre cœur et notre intelligence pour nous conduire à la vérité tout entière. Notre-Dame de la Sagesse, Saint Jean. Alors, on m'a demandé de vous parler sur le thème le cœur du Christ, surabondance de miséricorde. Comme nous sommes au lendemain de la fête du Sacré-Cœur et aujourd'hui c'est le cœur immaculé de Marie, ces deux fêtes se tiennent, hein, elles sont liées. Et c'est important de voir comment, dans le plan de Dieu, cet événement du cœur du Christ, eh bien, s'est manifesté pour nous, et comment Dieu, quel est l'enseignement que le Seigneur veut nous transmettre à travers cela. Alors, je vous rappelais peut-être des choses que vous connaissez sûrement, hein. Et d'ailleurs, je vais vous lire même le chapitre 19, l'évangile qu'on a eu hier, chapitre 19 de Saint Jean, qui nous parle du cœur de Jésus, de la blessure du cœur. Donc c'est le chapitre 19, versets 31 et 37. Comme c'était la préparation, les Juifs, pour éviter que les corps restent sur la croix durant le sabbat, car ce sabbat était un grand jour, demandèrent à Pilate qu'on leur brisât les jambes et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier, puis de l'autre qui avait été crucifié avec lui. Venus à Jésus, quand ils virent qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais l'un des soldats de sa lance lui perça le côté et il sortit aussitôt du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, son témoignage est véritable et celui-là sait qu'il dit vrai, pour que vous aussi vous croyiez. Cela est arrivé afin que l'Écriture fût accomplie, pas un os ne lui sera brisé. Et une autre écriture dit encore, ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Voilà donc c'est l'événement de la fin de la vie terrestre de Jésus et qui était précédé par, on l'a vu, hein, vous savez, le don de Marie à Jean, femme, voici ton fils, puis à Jean il dit, voici ta mère. Et ensuite le cri de soif, j'ai soif de Jésus. Et ensuite tout est accompli et Jésus remet l'esprit. Et après, justement, eh bien, il y a ce passage que nous venons d'entendre où, eh bien, comme c'était la préparation, la fête de la Pâque, il fallait que les corps, il n'y ait plus de corps en croix. Et donc on a hâté, si vous voulez, l'ensevelissement de ces condamnés. Alors, normalement, vous savez que la crucifixion, c'est une mort lente, hein, par asphyxie. Et donc, les prisonniers n'en finissent pas de mourir. Ils émettent des râles insupportables. Alors, quand les soldats viennent pour briser les jambes, viennent pour achever les soldats, eh bien, ils vont d'abord vers ceux qui crient le plus. Voilà. Ils brisent les jambes. Vous voyez la scène, c'est vraiment une boucherie. Hein. Même un animal, je ne sais pas si on ferait comme ça. Bon. Et les deux condamnés, Jésus était au milieu, donc ils vont d'abord vers ces deux-là. Et puis arriver à Jésus, voyant qu'il était déjà mort. Donc Jésus, il avait dit, nul ne prend ma vie, c'est moi qui la donne. Hein. Il avait remis l'esprit. Alors le soldat, il constate, hein, il est en service commandé, on lui a dit de briser les jambes. Bon, mais parce que pour achever un condamné qui est encore vivant, mais quand il est déjà mort, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas prévu dans son programme. Il n'aurait pas dû mourir avant Jésus. Il aurait dû mourir sous la main du soldat. Et alors, dans un geste insensé, il transperce le côté. c'est complètement inutile, cette blessure. Elle ne sert à rien. Elle n'a pas de sens, humainement. Alors, faut comprendre toute l'horreur du péché, du mal, et on va comprendre par contraste ce que Jésus va en faire, ce que Dieu veut faire de cela. Et alors on sait que quand on... C'était un coup particulier, les Romains savaient que pour atteindre l'adversaire qui portait son bouclier, il y avait un endroit vulnérable. Et cet endroit, il fallait avoir de la dextérité par la gauche, le transpercer le cœur, et on sait qu'à cet endroit du corps, il y a du sang et de l'eau qui coulent. Voilà. Il n'y a pas de hasard pour Dieu, évidemment, Dieu va se servir de tout. Et c'est pour ça qu'il est Dieu, justement. Dieu est capable de se servir de tout. Alors, l'offrande du Christ à la croix, elle est volontaire. Jésus a voulu offrir sa vie pour le salut des hommes. Il est même venu pour ça. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que tout homme qui croit en lui ne se perde pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16, etc. Et alors, on le dit d'ailleurs dans le credo, pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Voilà. On le redit dans le Je crois en Dieu. Jésus est venu pour cette heure-là. À Cana, il disait, mon heure n'est pas encore venue. Et puis, au moment de la passion, voici venue l'heure où doit être glorifié le Fils de l'homme. Et l'heure, c'est l'heure où Jésus offre sa vie pour le salut du monde, pour le rachat des hommes. Mais, pourquoi Jésus est venu sur terre? Pourquoi le Fils de Dieu s'est incarné? Eh bien, c'est à cause du péché que le Fils de Dieu s'est incarné. C'est parce que l'homme a péché gravement qu'il fallait que le Fils de Dieu, qu'il y ait une satisfaction, une réparation, qu'il satisfasse la justice divine. C'est cela qui est important de comprendre. Une offense faite à Dieu ne peut être réparée que par Dieu. Il faut être au même niveau pour pouvoir réparer une offense faite à quelqu'un qui a cette dignité. Il faut être la même dignité. Or, l'homme était incapable de réparer la faute commise envers son créateur. Il fallait que Dieu répare. Mais Dieu aurait pu réparer par une simple parole. Il a tout créé par une parole, il pouvait aussi tout restaurer par une parole. C'est-à-dire, il pouvait satisfaire la justice divine par une simple parole, ou même un simple acte d'humilité. N'importe quelle chose était suffisante pour la satisfaction de la justice divine. Mais ce n'est pas parce que la justice divine est satisfaite que nous sommes sauvés pour autant. Là, on peut voir un exemple qui est peut-être pas très précis, mais je ne sais pas, vous cassez la voiture de votre papa. Bon. Vous cassez la voiture. Et puis, le papa dit, je vais réparer la voiture. Oui, mais... Le papa peut dire, maintenant tu te débrouilles. Moi, ma voiture est réparée, ça me suffit, ça va. Maintenant, toi, tu n'as pas besoin de toi. Ça n'a pas restauré l'humanité. Et il aurait pu aussi que ça le fasse, mais au niveau de la justice, pas absolument nécessaire. Si on regarde uniquement une justice telle que nous pouvons humainement la concevoir. Mais la justice divine, elle n'est pas comme cela. Elle est enrobée d'amour et de miséricorde. Elle tient compte de la miséricorde. La véritable justice divine est liée à la miséricorde. On ne peut pas la séparer. C'est pour ça que beaucoup ont de la peine à comprendre cela. On ne peut pas comprendre le mystère de la croix du Christ si on ne regarde pas que c'est un mystère d'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est par amour, c'était pas nécessaire. Mais au niveau de l'amour, c'est nécessaire, oui. C'est une nécessité d'amour. Et tout le mystère du Christ, c'est un mystère d'amour. Si vous supprimez l'amour, vous ne comprenez plus rien. C'est l'amour de Dieu qui est tout puissant, si vous voulez. On peut dire ça comme ça. D'ailleurs, c'est, quand on dit le « je crois en Dieu », on dit « je crois en Dieu le Père tout puissant ». On ne dit pas « je crois en Dieu tout puissant », ce qui est vrai aussi, mais c'est un Père qui est tout puissant. Et le Père, c'est une relation d'amour avec son Fils. Puisque le Père, c'est tout l'amour donné au Fils. Et c'est important de comprendre cela, parce que sinon, on peut plus rien comprendre au mystère de le Sacré-Cœur n'a encore moins de sens. Alors Jésus est venu sur terre pour nous manifester tout l'amour de Dieu pour nous. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Toutes les paroles de Jésus après la scène, chapitre 15, même 14, 15, 16, etc. C'est le testament du Christ, si on peut dire. C'est là où Jésus livre son cœur, finalement, les secrets de son cœur. Les secrets de l'amour qui le lie au Père et qu'il veut nous faire participer à cet amour. Il faut aimer Dieu du même amour que le Fils aime son Père. Et là, il faut une grâce que Jésus peut seul donner. Alors, Jésus dira, toujours chapitre 15 de Saint Jean, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » Et c'est ce que Jésus fait. Jésus donc va offrir sa vie librement, et parce qu'il n'y a pas d'amour sans liberté. Si on est obligé d'aimer, ce n'est pas de l'amour. Quelqu'un qui dit « je suis obligé de t'aimer », ce n'est pas très glorieux. Aimer par contrainte, non, ça c'est pas de l'amour. C'est purement gratuit l'amour. Il n'y a pas d'autre raison à l'amour que l'amour lui-même. Voyez. Et je crois que c'est important de bien comprendre ça. Mais c'est pas parce que c'est gratuit que c'est pas nécessaire. C'est absolument nécessaire. C'est même vital. Mais notre vie, elle est d'une nécessité d'amour. On est sur terre par nécessité d'amour. C'est parce que Dieu, le Père, nous aime. Et c'est ce que Jésus ne cessera de nous dire. Alors Jésus donne librement sa vie et il veut, à travers l'offrande de sa vie, non seulement glorifier le Père, satisfaire à la justice divine, mais dans ce même acte, manifester le plus grand amour. Et là, on a déjà donc quelque chose de la miséricorde de Dieu. Parce que c'est nous qui sommes misérables. Et il veut prendre sur nous notre misère. Il a porté l'iniquité du monde, toute notre misère, il a voulu la porter dans son cœur et offrir tout cela au Père. Pour engloutir tout cela dans sa mort, tout le péché, tout le mal, et nous manifester à travers cela combien il nous aime. Alors, vous voyez, il y a deux choses. C'est pour ça que j'ai parlé du cri de soif. Parce que aimer, il y a la parole, et puis il y a le geste. C'est bien vous, c'est bien les paroles. Et la parole, surtout quand c'est la parole divine, elle a une signification immense, importante. Et comment Jésus exprime son amour, il l'avait dit déjà à la Samaritaine, chapitre 4 de Saint Jean, « Donne-moi à boire. » Jésus était fatigué, on comprend, il fait chaud, bon, « Donne-moi à boire. » Mais ce n'était pas de l'eau du puits. « Si tu savais le nom de Dieu, c'est toi qui l'aurais pris et il t'aurait donné de l'eau vive. » Donc Jésus a soif du cœur de l'amour de cette femme. Un peu plus loin, chapitre 7 de Saint Jean, dans le temple, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, » dit Jésus, « et de son sein couleront des fleuves d'eau vive. » Et Jésus est dans le temple et il crie cela. Un deuxième cri de Jésus, on pourrait dire ça, « Si quelqu'un a soif. » Et quand quelqu'un se met à crier, c'est qu'il veut réveiller les gens, c'est qu'il n'est pas entendu. Sinon, on n'a pas besoin d'hurler. S'il le crie, c'est qu'il y a urgence. Donc, si quelqu'un a soif, est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui a soif? Y a-t-il un pilote dans l'avion, quoi? C'est complètement décalé, mais c'est ça, il y a une urgence. On est en train de se casser la figure. Il manque d'amour. Ce monde manque d'amour. Est-ce que quelqu'un a encore soif? Et puis alors, à la croix, ben, c'est Jésus qui le dit à notre place. Cette soif qui devrait nous habiter, c'est Jésus qui la crie. J'ai soif. Pas du vinaigre qu'on va lui mettre au bout d'une éponge pour lui humecter ses lèvres, qui était un petit geste de miséricorde de la part des hommes pour les condamnés qui n'en pouvaient plus de souffrir. Alors on leur donnait un peu de vinaigre, ça faisait un petit effet euphorisant, et puis ça les soulageait quelque temps. Mais Jésus n'a pas laissé le temps au vinaigre de faire son effet, puisque dès qu'il eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli, il remit l'esprit ». Il a accepté tout geste, toute initiative, il a accepté. Jésus n'a pas refusé un seul geste de miséricorde, d'amour, de reconnaissance des hommes, aucun. Il a tout accepté. Mais, justement, ce cri de soif exprime bien plus qu'une soif physique, qui est bien compréhensible, mais exprime la soif de son cœur, qui exprime toute sa mission. C'est en résumé, si vous voulez, tout son enseignement. Tout ce que Jésus nous a dit, c'est un témoignage de son amour pour nous, pour nous inciter à aimer, faire entrer dans son amour, et nous donner, il nous donne par là la capacité de répondre. Et donc il crie cette soif, et ça c'est, il y a un côté intelligent, intellectuel, intelligible, je veux dire, de cette parole. La parole est liée à une signification, et qu'on peut comprendre. Et ça, Jésus est vivant quand il le dit. Donc il peut offrir cela au Père. Il crie sa soif envers le Père, bien sûr. Son amour envers le Père et envers les hommes. Envers le Père, il sait qu'il n'y a pas de distance. Le Père et moi, nous sommes un. Il vit de cet amour avec le Père. Mais cet amour n'est jamais assouvi. On ne peut pas dire, ben voilà, maintenant j'aime, ça va, c'est pas plus, ça ira. Non. L'amour veut toujours aller plus loin. C'est une offrande continuelle. On se donne constamment, continuellement. C'est ça le véritable amour. C'est donner. C'est pas un état statique où on est bien, c'est sur un petit nuage. Non, c'est pas ça. C'est dynamique. C'est une action. Mais cet amour, eh bien, parce que Jésus s'est lié à notre humanité, il veut que nous aussi, nous puissions bénéficier déjà de cet amour et répondre à cet amour. L'amour réclame la réciprocité. On ne dit pas j'aime, on dit j'aime quelqu'un, une personne. Et c'est important, c'est toujours, l'amour est toujours donné à quelqu'un. On ne peut pas dire j'aime. Non, ça n'a pas de sens. Cela, c'est de l'imaginaire. Non, on aime une réalité. Parce que l'amour réclame cela. Mais l'amour réclame plus que des paroles et que des réponses. Ben oui, Seigneur, je t'aime. Comme Pierre qui pourra dire après la résurrection, Seigneur, tu sais tout, c'est bien que je t'aime. Oui. Mais il faut aussi le geste. Il faut que cet amour, il s'incarne. La blessure du cœur, qui est très curieux, c'est que Jésus est déjà mort. Donc il ne peut pas l'offrir, puisqu'il est mort. Mais si on regarde le contexte, Jésus a donné Marie, sa mère, à Jean. Marie, donc, là, à la croix. Et le soldat, sans trop s'occuper de savoir qui est là, ben, il transperce le cœur de Jésus sous les yeux de Marie, sous les yeux de Jean, des saintes femmes, et puis aussi des autres soldats, des gens qui se moquent. Il y a de tout, c'est la foule, c'est l'humanité. L'humanité, elle est comme ça. Le petit nombre de ceux qui suivent Jésus, et puis l'immense foule qui est des badauds, plus ou moins consentant à ce qui se passe. Voilà. Alors, vous voyez, ça doit être terrible pour Marie. Jésus est innocent. Et on ne respecte même pas son cadavre. Normalement, quand quelqu'un est mort, ben ça va, on a compris, on ne va pas aller plus loin. Mais faire ça sous les yeux de la mère, surtout un homme qui est en pleine force de l'âge, 33 ans à peu près, c'est insensé. Il faut comprendre cette gravité, cette horreur, voyez, qui est là pour qu'on comprenne, voyez, le rôle de Marie, justement. C'est un geste, le cœur est ouvert. Et vous savez qu'une blessure faite sur un cadavre ne peut pas se refermer, elle reste toujours ouverte. Tant que la personne est vivante, ben la blessure peut se refermer. Constamment, les blessures se referment. Mais une fois que le corps, la personne est morte, le sang ne circule plus, la cicatrice ne peut plus se faire. Donc le cœur reste à jamais ouvert. D'ailleurs, Thomas l'attestera, hein, parce qu'après la résurrection, Jésus dira « Mets ta main dans mon côté ». S'il était refermé, il n'aurait pas pu le mettre. Donc, c'est bien une indication supplémentaire. Et donc, il n'y a que Marie qui peut vraiment offrir cette blessure au Père. C'est Marie qui va recevoir cette blessure, finalement. Le vieillard Siméon disait à Marie, « Vois ton fils que voilà provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et toi-même, un glaive ou une épée te transpercera l'âme. » Et c'est à ce moment-là que l'âme de Marie est transpercée. Je veux dire ça. Il y a une forme de mort mystique de Marie. Marie n'a pas été atteinte physiquement par les blessures. Elle n'a pas souffert physiquement la passion de son fils, mais elle a été unie à toutes les épreuves, toutes les souffrances de son fils. Parce qu'elle est immaculée, justement. Elle est sans tache. Elle ne garde rien pour elle. Parfait miroir, reflet de la gloire, enfin, je dirais, de l'amour de Dieu. Elle ne garde rien pour elle. Mais elle peut offrir. C'est sa manière de coopérer. Son mystère de compassion, elle coopère à cette œuvre qui la dépasse complètement aussi, hein, mais à laquelle elle est associée. Et alors que cette blessure n'était pas nécessaire. Alors, vous voyez, on peut dire que il y a tout de suite après, il y a cette hâte. Vous voyez. De même que Jésus a hâte d'offrir sa vie pour le salut du monde et donc de nous manifester son amour, hein, il devance sa mort, c'est une hâte. Et puis il a vécu 33 ans, c'est quand même rapide, hein, pour une vie. Donc il y a la hâte de l'amour, ça fait partie de l'amour, il y a une certaine hâte. De même, cette blessure qui est là, il fallait se dépêcher, parce que c'était le sabbat, donc on fait à la va-vite. On transperce le cœur. Et on peut comprendre, dans le plan de Dieu, pourquoi il y a la blessure du cœur. Bien, c'est pour aussi attester que Jésus est bien mort. Montrer l'état victimal du Christ. Parce que c'est la seule blessure mortelle, de fait. Avoir les pieds et les mains transpercés, c'est pas ça qui est une blessure mortelle. La mort, elle est très longue. Dans la crucifixion, c'est une mort par asphyxie, donc on n'en finit plus de mourir. Et donc, de toute façon, le soldat, si Jésus n'était pas mort, il l'aurait achevé. Voilà. Mais comme il était déjà mort, il fallait manifester, sinon on aurait pu dire ben, il était dans le coma, voilà. Et puis on l'aurait enseveli comme ça, et puis il se serait réveillé, et puis voilà. On aurait pu. Non, Dieu avait tout prévu. Dieu s'est servi de tout, de ce geste insensé du soldat. Et donc, c'est aussi pour manifester, voilà, que son cœur est à jamais ouvert, et que tous les dernières gouttes d'eau et de sang du Christ vont être versées. Alors, les pères de l'Église ont vu, bien sûr, très vite, à travers l'eau et le sang, les sacrements, l'eau du baptême et le sang, l'Eucharistie, le sang versé pour rançon pour la multitude, l'Eucharistie. Et donc c'est la naissance des sacrements, naissance de l'Église à la croix. Donc, comme ce n'était pas nécessaire au niveau de la justice divine, c'est une œuvre de miséricorde. C'est une surabondance de l'amour de Dieu pour nous. Pour Marie d'abord, pour Jean, pour les saintes femmes, pour l'Église, pour chacun de nous. Et il faut bien le voir comme ça, c'est que comme ça qu'on peut comprendre. Dieu peut s'en servir, humainement c'est monstrueux, mais divinement c'est ce qu'il y a de plus, la plus grande des sagesses, puisque c'est la croix qui est la sagesse la plus grande qui nous est manifestée. C'est là que se manifeste le mieux, le plan d'amour de Dieu sur l'humanité. C'est à la croix. Et c'est à travers cette blessure du cœur. Et c'est pour ça que Dieu, Saint Jean, qui le mettra longtemps avant d'écrire, hein, dira dans sa première épître, Dieu est amour. Et ce qui résume tout, finalement. Alors cette blessure du cœur, vous voyez, elle va être la manifestation, non pas d'une nécessité au niveau de la justice, mais une surabondance d'amour. C'était pas nécessaire. Même pour sauver l'humanité, ça c'était pas nécessaire. Mais Dieu ne veut pas nous sauver sans nous. Il veut que nous coopérions. Parce qu'il veut que nous vivions du même amour, que nous participions à sa vie et à son amour. Et c'est pour cela que, eh bien, c'est finalement, il n'y avait pas d'autre solution. Il fallait, entre guillemets, hein, il convenait au plus haut point, si on peut dire, qu'il y ait cette blessure du cœur pour manifester que Jésus, eh bien, a tout donné et dans un acte de surabondance d'amour. Et c'est pourquoi, eh bien, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui offre cela au Père, et c'est Marie. Finalement, on peut dire que cette blessure du cœur, c'est pour Marie et pour l'Église. Marie, mère de l'Église, on l'a fêté solennellement le lundi de Pentecôte, grâce au pape François qui nous a donné une fête, alors que c'est déjà Paul VI, bientôt Saint Paul VI, qui nous avait institué cette fête, en fait, ce vocable, cette manière d'appeler Marie, mère de l'Église, en plein concile. Alors, voyez, on peut dire que la Vierge Marie va souffrir cette blessure du cœur. Et cette souffrance, elle va pouvoir l'offrir au Père. Saint Paul pouvait déjà dire dans la première épître, enfin l'épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 24, « Maintenant je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous. Ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l'accomplis pour son corps qui est l'Église. » Et si Saint Paul peut déjà dire cela, lui qui est un pécheur, hein, converti, parce que sur le chemin de Damas, hein, combien plus on peut dire de la Vierge Marie ? Je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous. C'est ça aussi, il faut comprendre. Jésus n'est pas triste de nous sauver. Il ne le fait pas d'une manière, complètement abattue, désespérée de la méchanceté, de l'ingratitude des hommes, etc., face à tout le bien qu'il a pu faire dans sa vie. Et alors, bon, il meurt dans cet état de... Il serait mort dans un état d'abattement, de tristesse, de désespérance. Non, c'est tout le contraire. Jésus est heureux de nous sauver. On ne peut pas être heureux de manifester de l'amour quand même. On peut être malheureux, je veux dire, de manifester son amour. Si c'est le plus grand acte d'amour, ben, l'amour est lié à la joie. Hein. Ça ne s'oppose pas à la souffrance. Hein, sur terre. Ce n'est pas incompatible. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie. Ben donner sa vie, si vous voulez, ça fait souffrir. Mais on est heureux de le faire. Parce que c'est par là qu'on manifeste le plus grand amour. C'est une manière d'éprouver quelqu'un. Est-ce que tu es capable de souffrir pour moi ? Ah, si oui, ça veut dire que tu m'aimes vraiment. Et Jésus, c'est ce qu'il nous demande, hein. Et c'est ce qu'il demandera à Pierre, hein, m'aimes-tu plus que ceci ? Ah, Pierre, oui, Seigneur, oui, tu sais tout. Mais il comprendra qu'il va falloir qu'il offre sa vie lui aussi, et il sera crucifié aussi, comme son maître. Et Jésus lui fait le grand honneur de pouvoir participer à son mystère d'offrande. Alors, justement, Jésus est heureux de s'offrir, mais Marie est heureuse aussi d'offrir. Même si elle est triste, d'une certaine manière, elle souffre, elle peut être avoir une tristesse extérieure, bien sûr, mais au plus profond de son âme, elle est dans une paix incroyable. C'est pour ça qu'elle est debout à la croix. Et c'est pour ça que la tradition, hein, le Stabat Mater, hein, Marie debout à la croix. Elle n'est pas effondrée comme pourrait peut-être l'être Marie-Madeleine ou je ne sais pas qui. Mais elle est torturée dans son âme. Et ça, ce n'est pas incompatible. On peut souffrir physiquement très profondément et avoir une paix intérieure et même une joie en soi. Parce qu'on donne un sens à cette souffrance. Une souffrance qui n'a pas de sens, qui n'est pas orientée vers une finalité transcendante, ben c'est insupportable. Mais une souffrance qui est dépassée par un amour qui veut être l'expression d'un amour, ben c'est divin. C'est Saint Bernard qui dit à un Dieu, je crois qu'il dit ça comme ça, a choisi la souffrance pour nous manifester son amour. C'est une manière pour Dieu de nous montrer qu'il nous aime. Et nous le savons bien, quand quelqu'un, quand on est dans la souffrance et qu'il manifeste encore son amour pour nous, c'est quand même un signe très fort, voyez, une manifestation très grande de l'amour. Et c'est ce que Jésus veut faire, et ce que Marie fait. Alors, ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ, ben, il ne restait rien à souffrir, puisque tout est accompli. Oui, mais justement, en surabondance d'amour. Ce que Jésus ne pouvait pas souffrir, la blessure du cœur, il n'a pas pu la souffrir. Il est déjà mort. Donc, ça veut dire que je peux l'offrir, cette souffrance. Dans ma propre chair, je l'accomplis pour son corps qui est l'Église. Voilà. Et là, Marie, elle peut offrir cela. Dans son âme, dans sa chair liée à l'âme, bien sûr. Alors c'est comme ça qu'on peut comprendre cette surabondance, la miséricorde, voyez. C'est que le Seigneur, eh bien, il nous fait participer à son offrande d'amour. Il permet que ce que nous vivrons, ce que nous supportons de pénible, ce que nous souffrons, uni à son offrande, eh bien, est source de grâce. Source d'une manifestation d'amour, de miséricorde, et source de grâce. Et donc, glorifie Dieu. Si Saint Paul peut dire aussi, glorifiez Dieu dans votre corps, eh bien, toutes mes épreuves, si je les vis en union avec la passion du Christ, eh bien, glorifie Dieu. Et ça, c'est important, c'est ça, la miséricorde, c'est de prendre la misère. Vous voyez, c'est ce que... C'est prendre la misère de l'autre. Hein. Quand on regarde dans saint Thomas, j'ai été regarder un petit peu dans sa somme, hein, il dit, il y a une question sur la miséricorde, qui est-elle une vertu? Alors, c'est bien de lire un peu. La miséricorde implique une douleur provoquée par la misère d'autrui. Celui qui est miséricordieux, il a une douleur en lui qui est provoquée par la misère de l'autre. Il souffre de ce que l'autre souffre. Cette douleur peut être un mouvement de l'appétit sensitif. La miséricorde n'est pas alors une vertu, mais une passion. Voilà, je suis sensible, bon. Mais elle peut être aussi un mouvement de la partie intellectuelle, la volonté. Alors là, c'est la raison. Le mouvement de l'appétit sensible peut être... Vous voyez, ça veut dire que je peux vouloir et comprendre la misère de l'autre et l'accueillir dans mon âme. Voyez. Saint Augustin dit, ce mouvement de l'âme, la miséricorde, obéit à la raison lorsque l'on fait miséricorde, la justice étant sauve, soit qu'on secoue l'indigent, soit qu'on pardonne à celui qui se repent. Et donc, dans ce sens où, eh bien, c'est un acte de la raison, la vertu c'est toujours un acte de la raison, eh bien, je ne peux pas supporter de voir cette personne souffrir raisonnablement, intelligemment, volontairement, eh bien, j'accepte de prendre cette misère. Il y a un acte volontaire. Voilà, c'est une vertu. Donc, dans le cas de Dieu, la miséricorde, elle est par amour. Dieu n'est miséricordieux que par amour, en tant qu'il nous aime, comme étant quelque chose même de lui-même. La miséricorde de Dieu, c'est parce que nous faisons partie de Dieu. Et donc, il y a quelque chose de Dieu qui souffre. Et Dieu a compassion, si vous voulez, de ce qui souffre, c'est ce qui est blessé. Nous pouvons entrer, puisque Jésus nous le demande, soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux. Nous pouvons vouloir être miséricordieux. C'est pas simplement, il y a des gens plus sensibles, donc ils sont miséricordieux, ça c'est la passion. On n'a pas tous cette sensibilité-là. Par contre, on peut tous être miséricordieux, divinement, selon ce que Dieu veut. Même si on a une sensibilité un peu grossière, si je puis dire. On est tous plus ou moins. Mais on peut vouloir être miséricordieux. Et comprendre que, eh bien, oui, ce que dira aussi Jésus, tout ce que vous voudrez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. C'est une manière aussi, mais ça va plus loin. C'est prendre carrément la misère de l'autre. Et cette miséricorde, eh bien, elle va permettre, je dirais, d'exprimer et de, je dirais, oui, d'exprimer tout cet amour que Dieu a mis en nous. Et la miséricorde que je peux exercer, eh bien, c'est en fait une manière d'exprimer mon amour. Et une manière très profonde qui m'engage. Complètement, parce que c'est, voilà, c'est pas nécessaire mais, au niveau humain, mais c'est vital. C'est vital pour celui qui en a besoin de cette miséricorde, mais aussi pour celui qui l'exerce, pour nous en tout cas. Et Jésus dira, si vous n'êtes pas miséricordieux, votre Père non plus ne sera pas miséricordieux envers vous. Donc là on peut le comprendre. Mais il ne faut pas le voir d'abord d'une manière négative, il faut le voir d'une manière positive. C'est parce que Dieu veut que j'exprime toutes les richesses de l'amour qu'il a mis en moi et que le monde a besoin, que mon frère a besoin. Et moi aussi j'en ai besoin de l'exprimer cet amour. C'est ça finalement, c'est pour ça qu'on peut comprendre que la blessure du cœur, c'est permettre aux hommes d'exprimer leur amour, d'être miséricordieux. C'est de faire comprendre, en voyant le contraste du mal, l'horreur du péché, comment moi j'y réponds. Ça me dépasse, oui, mais j'ai en moi cet amour qui m'est donné gratuitement et que je dois redonner. Alors, vous voyez, Jésus aurait pu nous sauver par une simple parole. Il a voulu que je participe à ce salut, justement, en me permettant de lui offrir à travers mes épreuves, à travers mon cœur, mes actions, mes pensées, mes prières, et bien toute cette misère du monde pour que je puisse assouvir la soif du Christ à la croix. Et ça c'est très grand parce que c'est nous te rendre, on dit ça dans la prière eucharistique numéro 2, nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Et le service que Dieu nous demande, c'est d'exercer d'abord l'amour, la miséricorde, c'est la louange bien sûr de Dieu, mais cette louange elle s'incarne dans des gestes, des actes. Une mère Teresa, elle exprimait la louange de Dieu en soignant les malades, les mourants. Et elle le faisait avec un amour fou, quoi. Quelle que soit la religion ou la condition de la personne, elle mettait l'amour de Dieu dans tout ce qu'elle faisait, dans ses mains, dans ses gestes, dans son regard, dans le temps qu'elle passait. Et ce n'est pas réservé au sort de la charité. C'est au missionnaire de la charité, c'est pour tout être humain. Tous ceux qui ont bénéficié de l'amour de Dieu, c'est notre manière aussi, finalement, de nous aimer. Et au-delà des caractères, des tensions, voilà. Qui seront constantes, parce que vous savez bien, Jésus annonce sa passion, que vous avez même Jacques et Jean qui veulent être à la première place dans son royaume. Et voilà, c'est humain. Et Jésus lui dit, il faut être serviteur. Jésus n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Celui qui veut être le premier soit le serviteur de tous. Et le premier service qu'on a à rendre, c'est l'amour. C'est ça qu'on nous demande en premier lieu, c'est de manifester cet amour qui s'incarne justement dans des actes. Alors voyez, le Seigneur nous donne des forces pour cela. Il nous donne régulièrement des signes de cet amour et il le renouvelle. Parce que finalement, les sacrements, c'est quoi ? Un sacrement, c'est toujours une parole et un geste. Une parole, je te baptise au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, l'eau du baptême, qui coule du côté de Jésus d'ailleurs. Et puis le geste, il faut verser l'eau. Ou il faut plonger la personne dans l'eau baptismale. Tous les sacrements, l'Eucharistie, prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. Et puis il faut consommer. Il faut rompre le pain et le consommer. Et c'est toujours les deux. Et c'est ça, les sacrements, sont nés du cœur transversé de Jésus. Les sacrements, ce sont tous des œuvres de miséricorde, les sacrements. Alors à chaque fois que nous participons à un sacrement, comprenons. Nous recevons la miséricorde de Dieu. Permettons à la miséricorde de Dieu de se manifester. Cette miséricorde, elle nous est nécessaire. Parce que tu n'étais pas obligé. Pas obligé. Mais puisqu'il veut nous faire participer à son mystère, eh bien, il faut renouveler en nous cette source, voyez, de la grâce. À travers au moyen des sacrements. Alors la croix, Jésus, oui, il nous pardonne nos fautes, il engloutit tout péché, le sacrement de la miséricorde, le sacrement de pénitence, il réactue ce moment merveilleux. C'est une joie pour le Christ de nous pardonner. Et c'est une joie profonde qui nous est communiquée, parce que quand on se confesse régulièrement, après chaque confession, on se sent mieux. Normalement, j'espère. On a tous un peu cette expérience de revivre. C'est une forme de résurrection. Parce que le péché, ton fils que voilà était mort, il est revenu à la vie. L'enfant prodigue qui revient vers son père. Et le père qui l'embrasse, on pourrait dire c'est une forme d'absolution. Il ne tient pas compte du mal, il ne regarde que la joie de son fils qui revient après avoir dilapidé l'héritage et mené une vie de désordre et être complètement déguenillé, souffrant, etc. Et l'enveloppe, c'est ce qui se passe. Chaque sacrement, c'est le Dieu, le Père qui nous enveloppe de sa tendresse, de son amour. Et il ne regarde que ça. Nous, on voit trop le qui ne va pas en nous, on ne voit pas assez l'amour que Dieu manifeste. Alors il faut tout présenter, bien sûr, comme un enfant, parce qu'il se jette dans les bras de ses parents quand il a fait une bêtise. Pour justement, l'enfant vient auprès de quelqu'un qui peut le sauver, sortir de cette misère, il ne peut pas s'en sortir seul. Mais c'est pour justement repartir avec plus d'élan. Et puis, comprendre que, je dirais, la mission que Jésus nous donne, c'est d'en être témoin. Et c'est ce que dit Saint Jean, on l'a lu. Celui qui a vu rend témoignage. Il faut en témoigner. Son témoignage est véritable et celui-là sait qu'il est livré pour que vous aussi vous croyez. Alors le témoignage que nous avons à rendre, c'est pour que la foi grandisse. Elle se communique. Jean, il ne donne pas d'explication de tout ce que l'on vient de dire là. Il dit les choses, il témoigne. C'est le Seigneur qui va faire donner, c'est l'Esprit Saint qui va expliciter justement tout ce que nous avons besoin de comprendre. L'Esprit Saint nous conduit vers la vérité tout entière. Mais il faut rendre témoignage. Et on est tous capables de témoigner. Pas croire que c'est réservé à ceux qui ont fait des hautes voltiges théologiques. Tous. Sinon, on ne serait pas sur Terre. Hein. Donc, ça veut dire qu'on a chacun une manière propre de témoigner. Alors, on témoigne que de ce que l'on vit. Donc, il faut déjà en vivre. Vivre de cette miséricorde, de cette surabondance de la miséricorde qu'on vient puiser en contemplant le cœur du Christ, ouvert pour nous, éternellement, à jamais ouvert, pour moi, pour chacun de nous, pour tous les hommes. Donc si je vis un peu, chaque jour, un peu plus de cela, je peux en témoigner. Témoigner de l'amour de Dieu, que Dieu aime les hommes. C'est l'œuvre du Sacré-Cœur, c'est l'œuvre de l'Église, finalement. C'est pas réservé, bien sûr, au Sacré-Cœur. C'est l'œuvre de toute l'Église, de tout chrétien, et même, je dirais, de tout être humain. Même s'il n'a pas encore découvert la profondeur de l'amour du Christ, l'amour de Dieu, mais il en est marqué, on est tous marqués de l'amour de Dieu. C'est marqué sur notre visage, même si notre visage ne nous plaît pas trop. Bon. Dieu, il ne voit que la beauté de ce qu'il a créé. Bien sûr que le visage, vous savez, le visage du Christ à la croix était défiguré, et il n'avait plus ressemblance d'un homme. Hein. Alors, donc il était... Mais Dieu voit beaucoup plus loin. Parce que toutes ces blessures sont autant de manifestations d'amour de sa part pour nous. Et donc à la croix, le Seigneur nous montre qu'il nous aime. Il ne tient pas compte du mal. Et il n'a pas de rancune. Il ne dit pas, vous ne perdez rien pour attendre, vous allez voir. Non, non, au contraire. Il engloutit tout cela dans son cœur. Mais on a quand même des petites expériences de ça. Je sais pas, nos parents, notre maman, quand on a fait une grosse bêtise, bon, ben, son cœur est plus grand qu'elle ne peut pas punir excessivement son enfant. Le fait, mais je veux dire, il y a toujours une tendresse qui fait que c'est supportable. Quoi. Ça dépasse infiniment, beaucoup plus le. La gravité de la faute, et puis c'est elle qui répare, finalement. C'est elle qui répare. Parce que l'enfant est incapable de réparer ses bêtises. Incapable. Et il ne comprend même pas la gravité de sa faute, le pauvre. Mais nous, c'est pareil vis-à-vis du Christ. Parce que si on comprenait toute la gravité de nos fautes, on en mourrait. Je crois que Dieu nous épargne, alors de temps en temps il nous fait porter un peu la croix, il nous casse les mains, bon. Enfin, c'est pas lui, hein, c'est bien nous. C'est pas lui qui a fait un croche-pied, mais voilà, il peut s'en servir. Alors à quoi ça sert? On verra au ciel, à quoi ça sert toutes nos misères qu'on a vécues à tel moment? Ça nous a peut-être épargné beaucoup de choses, certainement, moi j'ose le voir comme ça. Je préfère le voir comme ça. Quand on a quelques épreuves, on peut dire peut-être qu'à travers ça, j'échappe à d'autres épreuves. Hein. Et puis, il faut se dire aussi, nous, on serait tranquillement dans notre pays, à l'abri des terroristes, etc. Enfin, je veux dire, on vivrait tranquillement, en paix, plus ou moins. Et puis, à côté, les gens innocents, hein, reçoivent des bombes, etc., sont mutilés, sont torturés. Comme ce que dit Jésus à saint Paul, je lui ferai comprendre tout ce qu'il devra souffrir pour mon nom. Et puis, Paul lui-même à Timothée, je crois, prends ta part de souffrance pour l'annonce du royaume de Dieu. Ben, voilà, c'est une manière de prendre notre part. On le fait avec... parce que le Seigneur nous le demande, et puis on sait que le Seigneur est assez puissant pour transformer nos épreuves en source de grâce. Et c'est ça qui est important. même si on ne comprend pas comment, ça paraît apparemment c'est complètement inutile, c'est stupide, c'est tout ce qu'on veut. Mais la croix, c'était inutile aussi. Hein. Voilà. Et donc, le Seigneur veut se servir de cela. Et puis, si ça lui plaît de me voir comme ça, ben, après tout, c'est son problème. On lui demande simplement de nous aider à supporter notre maladie, notre handicap, notre... voilà, notre... peut-être on se rend compte qu'on manque d'intelligence, de sagesse, d'amour. Ben, on lui demande de bien sûr, de nous glorifier à travers cela, d'être glorifié dans notre misère, dans notre petitesse. Alors, Saint Paul dit aussi, c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je mettrai toute ma... mon orgueil dans mes faiblesses, ma gloire dans mes faiblesses. Mais il faut qu'elle soit orientée vers le Christ. Voilà. Qu'elle se veuille bien, qu'on veuille bien, bien accepter de se laisser aimer tel qu'on est. Voilà. Dieu nous aime comme ça, ben, comme on répond à cet amour comme on peut. Voyez. Et Dieu fait des merveilles. Alors on voit, quand on lit la vie des saints, que le Seigneur se sert de la petitesse de voilà, Sœur Josepha Menendez, c'est merveilleux. Sa petitesse, sa vulnérabilité, bien Dieu s'en sert pour faire une œuvre qui la dépasse complètement à elle-même. Et voilà, et puis certains sont plus connus, d'autres c'est plus caché. Il y a des saints qui sont saints, mais qu'on ignore complètement toute la vie qu'ils ont menée. Ils ont mené une vie apparemment toute ordinaire. Et finalement, Dieu s'est servi de cela. Et ça, c'est extraordinaire de voir que le Seigneur peut servir de tout, des petites choses. Et on en est très étonné. On est même très heureux de voir que le Seigneur a été sensible à une toute petite chose dans notre vie. Et ça a été méritant, méritoire pour telle ou telle personne, pour nous-mêmes déjà. Puis ça a permis la sanctification d'autres personnes. Par ce renoncement, cette offrande de notre vie. Voilà, je n'ai pas grand-chose de plus à rajouter. Il y a bien sûr beaucoup à méditer, à vivre surtout de ce mystère, hein. Cette surabondance de la miséricorde. Comprenons vraiment que c'est une invention merveilleuse de Dieu de pouvoir nous faire participer voilà, à ce mystère. Si nous voulons bien nous-mêmes en vivre, accepter que voilà, on est aimé jusqu'à ce point-là. Voilà. Ça ne doit pas donner de limite à notre propre amour les uns pour les autres. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions prévues ou pas.
Père, je vais vous dire merci au nom de tous. Je trouve merveilleux comment vous l'avez développé tout à fait. Voilà. C'est vous, c'est le Père François-Emmanuel, c'est plus le Père Marie-Jacques, c'est le Père François-Emmanuel, et c'est très beau. J'ai été profondément touchée parce que parfois je pense tout de suite au message de Jésus à Sœur Josepha. Et hier, en ouvrant le site du message, je vois les rois entières. Je n'ai pas de plus grande joie que de pardonner. Et c'est ce que vous avez dit avant. Plusieurs fois, je pourrais souligner plusieurs phrases. Voilà, vous allez voir que ça fait un avec l'enseignement et le message que nous recevons dans l'après-midi. Vous pourrez venir.
Oui, je serai là. Oui,
pour le ce sera bien. C'est une manière de connaître. Merci beaucoup. Donc maintenant, nous avons une petite pause café, et puis nous nous rendrons à la messe est à la chapelle ou à l'église.
Eh bien, normalement c'est la chapelle, mais vu qu'on est nombreux, il faudrait qu'on puisse dire qu'on va le faire à l'église. Il faudrait que je prévienne assez vite maintenant.
C'est possible de lancer quelques chants
Oui, bien sûr, tout à fait, tout ce que vous souhaitez.
Alors faites-le régulièrement. Faites-le aussi spontanément.